Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur la nouvelle émission d'actualité sportive sur le campus avec Julien Motionnaire. Désolé pour le petit retard, on a eu quelques problèmes techniques en ondes, mais nous voici, nous voilà. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de deux de mes bons amis. Justine Dany, bonjour.
Salut.
Et Vincent Gianjopi, bonjour mon cher.
Salut Julien.
Ça va bien mes amis?
Oui, toi?
Ça va toi?
Ça va super bien. Merci beaucoup d'être présent avec moi aujourd'hui pour cette première édition. Donc, Vincent, t'es l'ancien correspondant Vert et Or. C'est moi qui ai pris la relève maintenant cette année.
Oui, c'est le passage du flambeau. Et je suis super content de voir que t'as décidé de faire ta propre émission. Puis j'ai eu la chance de lire tes articles là, que t'as fait pour la dernière édition du collectif. Donc, très content de voir comment ça se passe pour toi jusqu'à date.
Ouais, ben pour moi, c'est une deuxième expérience à la radio. Donc, on a commencé avec les attachés de presse l'année dernière. Et me voilà maintenant avec ma propre émission intitulée « Hors-jeu », où on va discuter des résultats de nos équipes du Vert et Or sur le campus en première partie d'émission. Et en deuxième partie de l'émission, on va avoir plus des chroniques. Donc, je vais recevoir des invités, comme aujourd'hui Vincent et Justine, qui vont venir nous parler de sport professionnel, des équipes, ce qui les passionne. Donc, c'est ça. Ça va se passer en deux temps, comme j'ai mentionné, un premier 30 minutes sur le Vert et Or et le deuxième 30 minutes qui va être tout sport confondu, tous les confondus. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Vincent, toi?
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'édition 2024-2025 de la Ligue des champions de l'UEFA qui a pris son envol la semaine passée. On a eu droit, avec ce nouveau format là, de 36 équipes, donc on a eu le droit à 18 matchs. Donc, on va revenir un peu sur les premiers pas de ce nouveau format-là. On va passer à travers quelques résultats qui m'ont interpellé et je vais faire un petit résumé sommaire là, de tous les matchs.
Super. Et toi, Justine?
Ben, écoute, moi, il y a juste un sport que je suis dans la vie, c'est la Formule 1. Fait que je vais vous parler du Grand Prix qui a eu lieu à Singapour en fin de semaine. Donc,
un Grand Prix assez calme quand même.
Assez calme, mais une saison mouvementée.
Ah oui. Parfait. Et bon, moi, pour ma part, si on a le temps, je vais faire une chronique sur la troisième semaine d'activité dans la NFL. Et sinon, je vais me contenter de vous parler de nos équipes du Vert et Or. Donc, en fin de semaine, on a l'équipe de football qui s'est rendue à l'Université Laval à Québec pour un match qui, ma foi, s'est terminé sur...
Un score pas très encourageant
pour le Vert et Or. Sinon, on avait les équipes de soccer masculines et féminines qui a joué deux matchs en fin de semaine. Donc, un contre l'Université McGill et l'autre contre l'Université Bishop. Puis l'équipe masculine qui s'est rendue à McGill aussi pour y affronter les Redbirds.
Les Redbirds.
Puis par la suite, on a les équipes d'Ultimate Frisbee, en fait, qui ont joué en fin de semaine. Il y avait le tournoi d'ouverture la semaine dernière. Donc, que le Vert et Or a réussi à aller chercher deux très bonnes places dans les deux équipes confondues. Et au cross-country, donc on avait le premier Open qui se tenait la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc, des résultats très encourageants pour l'équipe du Vert et Or. Puis le prochain rendez-vous qui sera à Ottawa le 28 septembre. Donc, pour ma part, pour commencer, je me suis entretenu avec le coach de l'équipe de football, Kevin Régimbald, vendredi dernier. Donc, je vais vous faire entendre qu'est-ce qu'il avait à nous dire par rapport au début de saison quand même assez lent pour le Vert et Or qui présente maintenant une fiche de 0 victoire, 4 défaites. Donc, je lui ai demandé premièrement comment l'équipe appréhendait le premier match en retour de la pause, le bye week. Donc, voici ce qu'il avait à nous dire.
Oui, ben on l'appréhende comme tous les matchs dans la saison. Là. La seule différence, c'est qu'on a eu une semaine supplémentaire pour se préparer puis pour retravailler sur certains aspects là, qu'on avait peut-être moins bien réussi là, dans le début de la saison. Donc, on se sent confiant là, par rapport à l'amélioration qu'on a vue là, dans la semaine dernière et cette semaine.
Par la suite, j'ai demandé aussi au coach où se situait le moral d'équipe après deux défaites serrées à domicile. Donc, la première contre l'Université Concordia, puis la deuxième contre l'Université McGill. Le coach avait quand même... l'esprit est assez fort, selon lui.
Il est très, très bon présentement. T'sais, on comprenait en début de saison où est-ce qu'on était comme équipe. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui devaient là, comprendre un petit peu là, à quelle vitesse se jouait le football universitaire puis s'adapter à ce nouveau style de jeu-là. Par contre, ils sont conscients, ils sont déçus là, d'avoir perdu les premiers matchs. Sauf qu'ils sont vraiment... Ils restent focus sur ce qu'ils contrôlent. Puis là, présentement, ben, c'est de continuer à travailler pour aller chercher les résultats qu'on espère avoir là, pour la deuxième moitié de la saison.
Donc, un coach assez confiant envers son équipe, mais avec l'affiche de 0-4 qu'il a défaite pour le Varior, une participation aux séries s'en vient très peu probable, surtout qu'il nous reste des matchs contre les Carabins encore ce samedi. On va rejouer nos matchs contre le Rouge et Or. Puis on va rejouer un match contre McGill et Concordia, qui se sont toutes terminées par des défaites la première fois. Donc j'ai demandé au coach s'il croyait que l'équipe allait pouvoir se qualifier pour les séries éliminatoires. Voici ce qu'il avait à nous dire.
Oui, certainement. La beauté dans notre conférence, là, c'est qu'on joue deux fois contre chacune des équipes. Donc on va avoir une opportunité là, de... Il nous reste seulement l'Université Laval contre laquelle on va jouer ce dimanche qu'on va jouer pour la première fois. Mais par la suite, chacun des adversaires, ça va être une équipe dont on a déjà joué durant la saison. Donc, un résultat peut facilement nous permettre de rentrer dans les séries. Là. Donc, ça va prendre des victoires. Mais oui, on est convaincu qu'on peut encore rentrer dans les séries.
J'ai vu Vincent me faire un petit signe de la main. Il y a une petite intervention. Hein.
Oui, ben en fait, c'est tout simplement pour dire que cette saison-là du Varior me fait énormément passer à la saison passée. Mm-hmm. Ce qui... Pour l'instant, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça peut éventuellement en devenir une. C'est-à-dire que, bon, là, cette année, le Varior, on avait plusieurs recrues, on avait un nouvel entraîneur, on a mis beaucoup d'argent sur un nouveau vestiaire. Malheureusement, pour l'instant, les résultats sont pas là, ce qui est évidemment dommage, mais on a eu...
Excuse-moi, Vincent, je veux pas t'interrompre. On va devoir aller en courte pause. On va continuer au retour de la pause. On va terminer ce petit segment, si tu me le permets.
Oui, parfait.
Parfait, on se revoit tout de suite. Et nous sommes de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Vincent, je m'excuse de t'avoir interrompu avant la pause, mais s'il vous plaît, continue.
C'est vraiment correct. C'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière que je me fais interrompre par des pauses publicitaires. Mais oui, écoute, pour revenir à la saison passée du Varior, on a remarqué que le Varior avait perdu leurs 7 premiers matchs de la saison et ils ont quand même réussi à accéder aux séries éliminatoires grâce à un résultat assez inextrémiste lors du tout dernier match de la saison. Et là, on a vu que c'était justement une victoire contre l'Université McGill qui leur avait permis d'accéder aux séries la saison passée.
Le Varior qui avait réussi à se qualifier avec le nombre de points qui avait été marqué, le nombre qui était requis pour la participation en série.
Exactement.
Le Varior s'était qualifié
sur la peau des fesses.
Sur la peau des fesses, si je peux me permettre de dire ça. Donc, ça va être à voir si ça va se reproduire cette année encore. Mais là, avec les blessures qu'on a chez l'équipe du Varior, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de jeunes joueurs qui sont habitués de redshirt leur première saison, qui foulent le terrain pour la première fois, en fait, cette année. Donc, c'est sûr que ça peut peut-être jouer contre le Varior, mais encore là, on peut toujours être surpris.
Exact. Et comme tu as mentionné... Ils ont fini par faire les séries par la peau des fesses la saison passée grâce à des scores assez serrés lors des premières confrontations contre ces équipes cette année de McGill et de Concordia. Donc, qui sait ce qui peut arriver au match retour. Évidemment, on leur souhaite là, une participation aux séries éliminatoires.
Ouais, merci Vincent. Puis en fin d'entrevue, je vais passer la dernière question que j'avais posée au coach Régin Ball. Ça va m'apporter aussi... à commencer, en fait, la revue des scores du Varior. Donc, voici ce que le coach avait à nous dire à propos des points forts, des points négatifs, les points positifs à retenir de son équipe depuis le début de la saison.
Les points positifs, c'est l'attitude. On en parlait tantôt là, de comment l'équipe réagit présentement aux défaites à domicile. Puis c'est vraiment l'attitude des joueurs là, qui restent positifs, qui continuent à travailler, qui se relèvent les manches. Ça, pour moi, c'est un gros, gros point positif de notre saison. Le point négatif, bien évidemment, c'est notre fiche. Là. On aimerait que notre sort soit différent présentement. Mais il reste encore une fois que pour nous, le résultat, là, c'est ce n'est pas ce qui va dicter comment on va réagir, mais beaucoup plus là, la manière dont on se prépare puis les choses qui sont en notre contrôle qu'on va mettre de l'avant. Là. Donc, c'est un point négatif, l'affiche, mais le positif est beaucoup plus important pour nous que le négatif.
Donc, comme l'a mentionné le coach Kevin Régimbald, le Varior présente une fiche négative. La seule équipe qui a toujours pas réussi à amasser une victoire cette saison. Et le Varior se rendait au stade TELUS de l'Université Laval ce dimanche, donc hier. C'est devant une foule de plus de 18 000 personnes que s'est incliné le Varior en fin de semaine. Et malheureusement, les seuls points produits par notre équipe proviennent d'un toucher de sûreté. Bon, c'est quelque chose qui a l'air de se reproduire dans plusieurs matchs cette saison-ci parce que l'offensive du Varior a quand même beaucoup de misère à aller chercher des points. Si on compare là, les productions offensives de Jérémy Fife, le corps arrière du Varior, et Arnaud Desjardins, le corps arrière de l'Université Laval, Jérémy Fife a complété 12 de ses 29 passes pour un grand total de 96 verges. C'est, ma foi, pas beaucoup. Donc, ça amène l'attaque à une production de 144 verges. Donc, si on fait le calcul, c'est 96 verges par la passe et 48 verges par la course. Quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir avec le Varior, qui ont quand même réussi à avoir des bons matchs au sol depuis le début de la saison. Mais comme on a pu le voir aussi, la défensive du Varior a beaucoup de misère à contenir les corps arrière adverses, avec Arnaud Desjardins qui a 332 verges par la passe en fin de semaine, Éloi La Tendresse Régimbald qui est allé chercher 400 verges par la passe la semaine dernière, en plus d'aller chercher beaucoup de verges au sol. Donc ça démontre quand même une certaine faiblesse de la défensive et l'offensive du Varior, mais la défensive du Varior a quand même répondu présente dans la deuxième partie du match là, en faisant plusieurs arrêts clés, en empêchant le Rougéor d'aller marquer des points. Donc c'est quelque chose dont on peut se consoler. Malheureusement, la défensive du Varior faisait face à l'une des meilleures offensives dans le U-Sports au Canada. Mm-hmm. Rougéor, qui est classé dans le top 3 des meilleures équipes, qui est situé seulement derrière les Carabins et l'Université Laurier en Ontario. Donc, et voilà. Puis, le receveur étoile du Rougéor, Olivier Coul, encore avec une performance incroyable, qui est allé chercher 2 touchés par la passe. Et il se tient maintenant à seulement 4 touchés du record, qui se tient à 12, qui avait été établi par Kevin Mittal il y a 2 ans, si je ne me trompe pas.
Il porte bien son nom.
Ah oui. Et très cool, très bonne performance. Il était très calme sur le terrain aussi, là, comme on peut le voir, devant une foule de 18 000 personnes. C'est rester, avoir le sang-froid sous la pression comme ça, surtout après un gros match contre les Carabins. La semaine dernière, si je me trompe pas, pour le Rouge et Or, qui avait été devant 21 000 personnes, stade à pleine capacité.
Wow.
Un match qui s'était terminé par la marque de 23-22 pour le Rouge et Or sur un placement en fin de match dans les dernières secondes. Donc, ça va être à voir pour la suite. Là, le Varior va devoir tenter de se reprendre en fin de semaine contre les Carabins, mais ça va être un match très, très difficile à la maison. On se rappellera que le Varior avait perdu son premier match de la saison contre les Carabins à Montréal. Et,
45-14.
Oui, 45-14. Puis le corps arrière des Carabins, incroyable performance. C'est juste complètement ridicule. Là, on voit que Sénécal est toujours le même, encore le meilleur corps arrière. Un des meilleurs, si c'est pas le meilleur en fait, dans le RSEQ et dans le U-Sports canadien au complet. Là. Je crois qu'il est deuxième pour les verges par la passe, même chose pour les touchés. Là, puis la défensive du Varior va vraiment devoir sortir en canon cette semaine pour arrêter Sénécal.
On va leur souhaiter, on s'entend qu'une victoire risque très peu probable, mais on va quand même leur souhaiter une meilleure performance autant à l'offensive qu'à la défensive là, que ce qui a été effectué la semaine passée à Québec.
Oui, ouais, on se compare puis on se console parce que les premiers matchs que les Carabins ont fait contre Concordia et contre McGill se sont terminés par des performances offensives piètres par par Concordia et puis par McGill. Donc le Varior peut se consoler d'avoir marqué quand même 14 points lors de son premier match. Ça va être à voir si on peut en faire plus ou si on va en faire moins cette semaine. Par la suite, notre équipe de soccer masculine a réussi à aller chercher un match nul contre McGill en fin de semaine. Donc, un match sans impasse vendredi dernier. Le match est terminé par la marque de 0-0. Et puis, ce match-là a vu aussi 4 joueurs du Varior recevoir un carton jaune. Donc, un match très féroce. Puis un joueur de McGill qui s'est fait expulser à la 88e minute aussi, Nassim Kamel. Donc les esprits étaient très chauds en fin de match. Ce match sans grand rebondissement pour le Varior porte leur fiche à 0 victoire, 2 parties nulles et 4 défaites. Donc, le prochain match de notre équipe de soccer masculine se tiendra le 26 septembre contre les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur le terrain Nouveau-Concorde de l'Université de Sherbrooke. Sans oublier mention spéciale à Olivier Fleurant Dumoulin, qui est le nouvel athlète de la semaine pour l'équipe de soccer du Varior. Du côté des femmes maintenant. Donc on avait 2 matchs en fin de semaine pour l'équipe de soccer féminine. Le premier s'est terminé sur un score de 0-0 contre l'Université McGill. Puis une très belle victoire de 2-1 contre l'Université Bishop hier. Donc ça porte la c'est un quatrième match consécutif sans défaite pour l'équipe féminine. Donc félicitations. On réussit à aller chercher des points très importants pour l'équipe de soccer qui est maintenant au 6e rang dans la RSEQ, si je ne me trompe pas.
Oui, exact.
Donc, c'était une fin de semaine chargée du côté de l'équipe féminine là, avec le premier match de 0-0. Ça fait 2 matchs en 3 jours, si je ne me trompe pas. Là. Donc, une fin de semaine assez chargée, comme j'ai mentionné. Puis, c'est grâce à des buts d'Anita Barbiero et Andrea Roy que le Varior a su s'imposer et porter leur nombre de victoires à 2. Donc, les équipes masculines et féminines du Varior profiteront d'un programme double ce jeudi. Donc, l'équipe féminine qui partira la soirée avec leur match contre l'UQTR qui sera suivi de l'équipe masculine. Mention spéciale encore, une joueuse de soccer en fait. Donc les 2 athlètes de la semaine sont des athlètes en soccer et c'est Raphaël Langteau qui a décroché l'athlète de la semaine. Du côté du cross-country, on avait la première compétition la semaine dernière, c'était Mont-Royal, parfait. Très belle performance de nos équipes du Varior. La semaine dernière, les 2 athlètes de la semaine étaient 2 athlètes en cross-country. Donc, ça nous démontre quand même des faits très encourageants. Donc, on se console malgré nos performances qui laissent un peu à désirer pour l'équipe masculine de soccer, l'équipe de football aussi. L'automne peut quand même nous apporter des résultats réchauffant, si je peux dire ça.
Tout à fait, tout à fait. Écoute, j'ai la liste des résultats. Ben, j'ai les résultats masculins ici. Et les hommes, tellement impressionnants. On a Nolan Turgeon qui a remporté l'événement, terminé premier.
Nolan qui était l'athlète de la semaine passée aussi.
Oui. On a Vincent Troulier qui a terminé deuxième. On a Félix Quirion qui a terminé 6e, Mathis Richard 10e. Donc, juste comme ça, dans le top 10, on avait 4 athlètes du vert et or. Wow. C'est pas surprenant là, de les retrouver au premier rang du classement général après cette première épreuve.
C'est très, très, très encourageant, ma foi. On va continuer avec Ultimate Frisbee. Donc, on avait la première compétition la semaine dernière, qui était le tournoi d'ouverture qui s'est déroulé à Sherbrooke. Donc, dans ce tournoi d'ouverture, l'équipe féminine d'Ultimate Frisbee a terminé 3e avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite. Et l'équipe ouverte, si je ne me trompe pas, on a terminé 2e dans sa catégorie avec une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Donc, suite à ce premier tournoi, ça nous menait aux championnats provinciaux en fin de semaine. Donc, on a eu des bonnes performances encore de nos équipes. On va pouvoir en savoir plus cette semaine sur les résultats, sur les bonnes performances, les faits saillants. Mais pour l'instant, je crois que c'est très encourageant.
De très bon augure.
Oui, ouais, de très bon augure, en fait, pour la majorité des équipes du Varior. C'est un, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est un automne qui va être très chargé. On a plusieurs sports qui la saison va commencer dans les plus brefs délais. Donc, je pense au volleyball, qu'on a une équipe masculine incroyable qui a terminé 2e au championnat canadien l'année dernière. Donc, à voir s'ils vont être capables de répéter leur prouesse cette saison.
On peut être sûr qu'ils vont arriver dans cette compétition-là, le couteau entre les dents. Eux qui ont vécu une saison historique en ne perdant aucun match de toute la saison, se rendre en finale nationale et finalement perdre par un seul set. Ils ont quand même été capables de garder Le même ensemble de joueurs qui, je crois, arrivent à leur dernière année là, cette saison-ci. Ils ont évidemment perdu Zachary Holland, qui s'est fait recruter par un club finlandais. Donc, c'était l'un de leurs joueurs vedettes et il est instantanément passé au championnat professionnel là, en Europe. Mais malgré tout, là, l'essentiel des joueurs des dernières années est encore là. Il va arriver probablement plus affamé que jamais là, pour aller remporter une bonne fois pour toutes, là, ce championnat national.
Fait que selon toi, on peut s'attendre à un même momentum cette année.
Définitivement, définitivement. Je crois que le championnat québécois, c'est le strict minimum que cette équipe-là va essayer d'aller chercher. Et évidemment, le championnat national, ce serait la cerise sur le sundae.
Parfait. Ben, c'est ce qui fait le tour pour le premier topo des résultats du Varior de la semaine dernière. Donc, on va aller en courte pause, puis on va de retour après avec nos chroniques de Vincent et Justine et, si on a le temps, un petit recap de la troisième semaine dans la NFL. Donc, merci et à tout de suite. Et nous voilà de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Vincent, c'est maintenant ton tour de nous présenter la Ligue des champions?
Oui, on est resté en Estrie dans la dernière demi-heure, mais là, on va traverser de l'autre côté de l'Atlantique pour
en
Europe pour parler de soccer et de cette nouvelle édition là, 2024-2025 de la Ligue des champions de l'UEFA qui a débuté la semaine passée. Un changement majeur pour cette nouvelle édition de la LDC, ben, on délaisse la phase de groupe pour une phase de Ligue. Alors, Julien, je sais que toi, tu suis quand même pas mal le soccer.
Ouais.
Tu savais que jadis, ben, c'était 32 équipes qui étaient séparées en 8 groupes de 4. Chaque équipe jouait deux fois contre chaque équipe de son groupe, lui donnant un total de 6 matchs.
Souvent, on pouvait voir des groupes aussi, des groupes de la mort, comme on les appelait, là, des groupes qui pouvaient contenir des équipes comme Manchester City, FC Barcelone, les Paris Saint-Germain aussi. Donc, pour une fois, ça va laisser place aux grandes équipes et aux plus petites équipes, en fait, peut-être avoir une chance de se qualifier.
Oui, exact. Ça fait en sorte que les petites équipes qui se sont qualifiées de manière un peu plus in extremis vont avoir évidemment certains matchs contre des cadors là, du foot européen, mais ils auront aussi la chance d'affronter d'autres équipes qui sont peut-être un peu plus à leur niveau et ainsi pouvoir gravir les échelons et potentiellement ben, se qualifier pour les huitièmes de finale. Et comment ça marche ce classement-là en fait? Donc on passe de 32 à 36 équipes, on fait une ligue avec ça. Donc, chaque équipe va jouer 8 matchs contre 8 équipes différentes. Et après ces 8 matchs, on va se retrouver avec un classement cumulatif de 36 équipes. Et ces équipes-là vont être séparées en 3 parties distinctes. Donc, tout d'abord, les 8 premières équipes au classement se qualifient automatiquement pour les 8e de finale. On a les 12 dernières équipes, donc les positions de 25 à 36, qui sont tout simplement éliminées de la compétition. Et les choses se corsent un peu pour les positions 9 à 24 parce qu'elles devront remporter un affrontement supplémentaire pour se qualifier pour ces 8e de finale. C'est-à-dire que les équipes de 9 à 16 vont jouer contre l'une des équipes tirées au sort entre les positions 17 et 24. Le gagnant de cet affrontement va se rendre en 8e de finale et va affronter l'une des 8 premières équipes.
C'est un peu le retour du, permettez-moi l'anglais, là, des knockout stage qu'on avait un peu avant la Ligue des Champions. Ben, pas, c'est plus tard en fait, là, au lieu des matchs aller et retour. Donc ça va être juste un match en fait. Donc, écoute, la victoire doit être là, sinon on est out de la compétition.
Tout à fait. Et un élément qui va être très intéressant et dont je vais parler un peu plus en détail tantôt, ben, c'est le différentiel de but qui risque d'être extrêmement essentiel là, quand va venir le temps des qualifications. Et justement, le premier match dont je vais parler va être un très bon exemple de cela. Et ben c'est ça. Donc, je vais vous parler de 6 matchs qui ont particulièrement retenu mon attention. Et ensuite, je vais tout simplement donner le score des autres matchs. Est-ce que tu avais une...
Oui, j'ai une petite question pour toi. En fait, avant, on avait la règle des buts à l'extérieur en Ligue des champions. Est-ce que c'est une règle qu'on va revoir cette année avec le nouveau format ou ça reste...
Il va falloir m'expliquer c'est quoi une règle des buts extérieurs, s'il vous plaît.
Ah, de toute manière, non, la règle ne sera plus là.
Parfait.
C'est simplement, tu marques le plus de buts, tu en encaisses le moins, ça te fait un bon différentiel.
Mm-hmm.
Mais historiquement, comment ça fonctionnait, c'est que, par exemple, un match de quart de finale, tu avais un match aller, tu avais un match retour. Par exemple, l'équipe A, le premier match se termine 2-2, mais l'équipe A a marqué 2 buts à l'extérieur. Et là, le match retour termine, par exemple, 1-1 ou 0-0. Ben, l'équipe qui avait marqué 2 buts au match retour l'emporte parce que marquer un but à l'extérieur est plus compliqué que, okay. Que marquer un but à domicile.
OK, je comprends.
Donc, voilà, c'était une règle qui était assez historique et qui a été délaissée, je pense, il y a...
Ouais. L'année dernière, en fait, c'est la première année qu'on a essayé ça. C'était une règle qui faisait beaucoup jaser, surtout parce que, ben, on peut le mentionner, là, les stades en Europe, c'est des stades avec une capacité incroyable.
Oui.
Si on pense au Allianz Arena... À Munich.
Mm-hmm. 75 000 places.
75 000 places. Ça fait beaucoup de monde qui chante, qui crie, qui font plusieurs sortes
de chants, de techniques pour déstabiliser l'adversaire.
Voilà. Donc, c'est pour ça que ça rendait la tâche beaucoup plus difficile quand une équipe se rendait à l'étranger. C'est pour ça, justement, que marquer un but à l'étranger comptait plus qu'un but marqué à domicile.
Exactement. Et tu fais bien de parler du Bayern Munich parce que c'est la première équipe dont on va parler. Bayern Munich qui a rapidement pris la tête du classement général grâce à une victoire écrasante de 9-2 face au Dynamo Zagreb.
Oui.
Comme je l'ai mentionné, avec une phase de seulement 8 matchs, le différentiel de but sera essentiel. Le Bayern Munich qui repart de son premier match avec un différentiel évidemment de plus 7. Très bon début pour la troupe de Vincent Kompany. Ouais. on peut mentionner l'attaquant anglais Harry Kane, marqué 4 buts, dont 3 pénalties, ainsi que la recrue estivale, le jeune ailier français Michael Olise, qui s'est offert un doublé. Julien, je sais que toi, tu es un fan du Bayern Munich. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter le match?
Oui, certainement. Des performances très encourageantes. Là, on sait, Olise, lui, qui a participé aux Jeux olympiques cet été, qui n'avait pas été appelé en sélection française pour l'Euro. Donc, il démontre en fait à son entraîneur de sélection qui aurait dû être sélectionné pour l'Euro. Puis d'autres joueurs comme Jamal Musiala qui a eu un très bon Euro cet été, qui répond encore très présent en ce début de saison, qui a marqué un but ou qui a eu 2 passes décisives, si je ne me trompe pas.
Quelques belles passes décisives.
Ouais, quelques belles passes décisives contre le Dynamo Zagreb. Donc, c'est un très beau début de saison pour le Bayern. Sous la barre de leur nouvel entraîneur Vincent Kompany, comme tu as mentionné, qui est un ancien joueur du Manchester City en première ligue anglaise.
Oui, qui était entraîneur de Burnley l'année passée et qui s'est fait reléguer, mais qui est tombé, mais dans la bonne direction, si on peut dire.
Ouais.
Il s'est relégué, mais a quand même eu une promotion d'emploi au Bayern. Et le Bayern, là, qui vit un début de saison assez exceptionnel, qui marque régulièrement 3, 4, 5, 9 buts par match. Donc, très, très bon début pour l'entraîneur belge.
Pourtant, Dynamo Zagreb, qui est une très bonne équipe là, dans son coin de pays, il faut le mentionner, les seules équipes qui ont la chance de se qualifier pour la Ligue des champions, c'est les équipes qui figurent souvent dans le top 4 de leur ligue respective. Là. Donc, ça veut dire que Dynamo Zagreb est dans le top de sa ligue. Là.
Oui, tout à fait. Dynamo Zagreb, qui est une équipe qui, historiquement, se qualifie pour la Ligue des champions, se qualifie au moins pour la Ligue Europa. Et bien qu'elle ne se rende pas nécessairement dans le carré d'os de la compétition, a déjà causé quelques surprises là, par le passé. Mais on peut dire que c'est définitivement pas ce qui est arrivé cette fois-ci. Un autre match dont j'aimerais parler, ben, c'est l'entrée en matière de mon équipe, Liverpool, qui se déplaçait au légendaire San Siro de Milan pour y affronter un autre club très historique, l'AC Milan. C'est un match qui avait vraiment des allures du début des années 2000. On peut notamment passer à la finale de Ligue des champions 2005 qui opposait ces deux équipes et qui est devenue une finale tout simplement légendaire dans l'histoire de tout sport confondu, alors que Liverpool perdait 3-0 à la mi-temps, sont revenus au score 3-3 et l'ont finalement emporté en pénalty. Le miracle d'Istanbul, comme on l'appelle. Cette fois-ci, le match aurait été un peu moins dramatique, mais quand même assez divertissant. C'est Milan qui a ouvert le score après à peine 3 minutes de jeu grâce à l'allié américain Christian Pulisic. Mais Liverpool a marqué 2 fois de la tête grâce à ses 2 défenseurs centraux. D'abord Ibrahim Konaté, puis le capitaine Virgil van Dijk. Et finalement, c'est le milieu offensif Dominic Szoboszlai qui a porté le score à 3-1 vers la fin du match. Donc, encore une fois, excellente entrée en la matière des Reds d'Arne Slot dans cette compétition.
Ouais, c'est ça. Arne Slot qui est venu remplacer l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui est parti du club après
8 ans.
8 ans, ouais, 8 ans à la barre de Liverpool, là, qui a repris les rênes d'un club qui avait beaucoup de misère avant son arrivée. Là, Jürgen Klopp qui arrivait du BVB Dortmund.
Exact.
Donc, qui avait fait des bonnes prestations là, en Ligue des champions en 2012, si je ne me trompe pas.
Oui, s'était rendu jusqu'en finale face au Bayern.
Bayern qui avait gagné une grosse victoire. Oh, oui, je m'en rappelle très bien. Avant que Robert Lewandowski quitte Dortmund pour se joindre au Bayern. Qui a fait la pluie et le beau temps à Munich, justement.
peux être sûr que oui. Et oui, Lewandowski qui est désormais
FC Barcelone.
Mm-hmm. FC Barcelone, dont on va parler un petit peu plus tard. Oui, mais oui, effectivement, Liverpool, assez bon début de saison là, sous ce nouvel entraîneur. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, ces joueurs-là, les Mohamed Salah, même voir un joueur comme Ryan Gravenberch qui avait eu pas mal de difficultés l'année passée, qui est devenu une pièce maîtresse de cette équipe. Ça me fait vraiment plaisir à voir.
Sans oublier la nouvelle acquisition, Federico Chiesa aussi.
Oui, Federico Chiesa.
Qui vient d'arriver de la Juventus.
Oui, et qui a justement effectué ses premiers pas. Pour les Reds, ouais. Lors de ce match, est entré pendant quelques minutes. On sait qu'historiquement, Chiesa, c'est un joueur qui a quand même pas mal de problèmes de blessures, mm-hmm. mais c'est quand même de très bonne augure, là, encore plus de profondeur à l'attaque pour mon équipe. Un autre match extrêmement intéressant aurait été celui entre le Real Madrid et l'équipe allemande du VfB Stuttgart. Pour donner un peu de contexte, bon, Real Madrid, l'équipe qui a remporté le plus de fois la Ligue des Champions, 15 fois, champion en titre, qui l'a remporté mm-hmm. plus tôt cette année. Et Stuttgart, qui, à l'inverse, faisait son retour dans cette compétition pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Ouais. On aurait donc pu s'attendre à un vrai massacre de la part du Real, mais Stuttgart aurait vraiment été à la hauteur de la tâche. En fait, le Real pouvait probablement se considérer chanceux de ne pas être mené au score à la mi-temps, lui qui a été sauvé à plusieurs reprises par son gardien Thibaut Courtois. Mais au retour des vestiaires, ben, c'est nul autre que la recrue estivale, Kylian Mbappé, qui va ouvrir le score pour Los Blancos. Mais Stuttgart va égaliser plutôt une vingtaine de minutes plus tard. Mais fidèle à ses habitudes, le Real va trouver un moyen de l'emporter. C'est ça qu'ils font dans la Ligue des Champions. Le Real Madrid sait remporter des matchs avec tous les moyens possibles. C'est d'abord le défenseur Antonio Rudiger, qui mm-hmm. a d'ailleurs débuté sa carrière à Stuttgart, et finalement le jeune remplaçant Hendrik, donc la défense du titre du Real, qui commence très bien avec une victoire de 3-1. Si la plupart des matchs de cette première journée nous ont été marqués par des scores assez élevés, ben on peut malheureusement pas en dire autant du duel entre Manchester City et l'Inter Milan. C'était une reprise de la finale de 2023. C'est un match qui s'est soldé sur un score de 0-0. C'est un match qui, d'un point de vue tactique, était assez intéressant à écouter avec deux équipes qui ont des collectifs très aboutis. Mais au final, les défenses et les gardiens de but ont fait le boulot. Score vierge, donc, de 0-0 pour ces deux équipes. Un autre match avec peu de buts, mais qui aura quand même été super intéressant, c'était celui entre le Paris Saint-Germain contre Gérone. Je dis ça parce que ce sont deux équipes qui ont des narratives très intéressantes. Les Parisiens qui rentrent dans cette édition de la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé, évidemment, pour la première fois
depuis 2017-2018, ouais, lorsque Kylian évoluait avec l'AS Monaco en Ligue 1.
Et exact. Et là, l'entraîneur Luis Enrique qui est en train de former un collectif autour de plusieurs joueurs plutôt que seulement une individualité.
Ouais, on pense ici à Randall Colomouani, Bradley Barcola,
Warren Zaïre-Emery, oui. Ousmane Dembélé qui fait très bien ça, Vitinha.
On pense aussi à João Gomes, qui est la nouvelle acquisition portugaise.
Neves,
qui arrive, si je ne me trompe pas, de Benfica, au Portugal. Ouais, qui a fait très belle performance aussi à l'Euro, dans l'équipe de Cristiano Ronaldo, justement.
Tout à fait, un potentiel jeune petit crack là, que le PSG est allé chercher du club portugais. Et du côté de Gérone, ben c'est une équipe que pas grand monde attendait en Ligue des Champions. C'est une équipe qui historiquement se battait pour le maintien en Liga et qui est parvenue à terminer troisième de la Liga espagnole la saison passée et ainsi se qualifier pour la première compétition européenne de leur histoire. C'était donc techniquement la première fois que Gérone jouait un match de soccer européen de son histoire. Et finalement, ils se sont très bien défendus, mais finalement ont perdu sur le score de 1-0 face au Paris Saint-Germain. Dans le temps additionnel, un but crève-cœur là, qui est passé entre les jambes du gardien, but contre son camp. Et finalement, dernier match dont j'aimerais parler, c'est l'AS Monaco contre le FC Barcelone. Match qui a très mal commencé pour le FC Barcelone. Carton rouge à la 10e minute. Marc-André Ter Stegen qui rate sa passe et finalement c'est Eric Garcia là, qui fait faute, ça donne carton rouge et finalement c'est un match qui va se terminer sur le score de 2-1 pour l'AS Monaco. Est-ce qu'on a le temps? Je passerai juste rapidement à travers les autres scores.
On va pouvoir le faire rapidement au retour de la pause, mais on va devoir vous laisser. On sera de retour dans quelques minutes. À tout de suite. « Et nous sommes de retour pour ce dernier segment de hors-jeu avec Julien Motionneur, Vincent Gianjopi et Justine Dany. Donc, Vincent, avant d'aller en pause, tu allais nous dire les derniers résultats de la première semaine de la Ligue des Champions?
Oui, j'allais juste passer rapidement à travers les autres scores qui ont eu lieu lors de cette première semaine de Ligue des Champions. Alors, tout d'abord, on a la Juve qui l'a emporté 3-1 face au PSV Eindhoven. Donc, très belle entrée en la matière pour la troupe de Thiago Motta. On a Aston Villa qui a marqué son retour dans la Ligue des Champions face à une belle victoire à l'extérieur face aux Young Boys de Berne. Drôle de nom d'équipe, mais c'est son équipe suisse. On a le Sporting Club Portugal qui l'a emporté 2-0 face au club français de Lille. On a Bologne qui a marqué eux aussi leur retour en C1 avec un 0-0 face au Shakhtar Donetsk. Le Sparta Prague qui a somme toute causé la surprise en l'emportant 3-0 face au Red Bull Salzbourg. On a le Celtic Glasgow qui l'a emporté quand même assez de manière convaincante, 5-1 face à une équipe assez faible là, du Slovan Bratislava. On a le Borussia Dortmund, finaliste de l'année passée, qui a bien commencé sa campagne avec une victoire 3-0 face au club Bruges de Belgique. Bayer Leverkusen, les invaincus de la Bundesliga l'année passée, qui l'ont emporté 4-0 à l'extérieur face au Feyenoord.
L'équipe du fabuleux Xabi Alonso.
Oui, exact. Du foot très, très, très convaincant. C'est d'ailleurs l'un des matchs dont j'aurais pu parler. Superbe équipe là, du Bayer Leverkusen. On a Benfica qui l'a emporté 2-1 à l'extérieur face au Red Star de Belgrade. Arsenal et Atalanta qui ont joué un nul 0-0. Le gardien d'Arsenal, David Raya, qui a sauvé un pénalty, qui a fait déjà l'arrêt de la compétition sur le retour de ce pénalty. On a l'Atlético Madrid qui l'a emporté 2-1 face au RB Leipzig. Et finalement, on a le Stade Brestois, équipe bretonne, qui a marqué, elle aussi, son tout premier match européen de son histoire. Une belle victoire là, de 2-1 face au Sturm Graz, champion d'Autriche.
Super. Merci pour cette belle chronique, Vincent. C'est maintenant au tour de Justine de nous parler du Grand Prix de Singapour qui se tenait hier.
Yes! Donc, je vais lancer ma chronique en disant quelle saison. Quelle saison de F1, ça n'a aucun sens.
Quelle saison incroyable.
Je ne sais même pas par où commencer, il se passe tellement d'affaires. Premièrement, l'arrivée de Franco Colapinto au départ de Logan Sargeant pour l'équipe Williams, qui est arrivé, il est assez agressif. On est d'accord.
il y a plus de points que Logan Sargeant en 36 courses et oui. Colapinto a seulement 2 courses sous sa ceinture en ce moment.
Ouais, wow. C'est vraiment un jeune recrue, d'après moi, il va avoir sa place à un moment donné en F1. Sinon, qu'est-ce qui se passe aussi? Des rumeurs à propos du départ de Daniel Ricciardo. Je vais revenir un peu là-dessus plus tard. La réprimande de Max Verstappen à la conférence de presse. La F1, c'est assez by the book. Puis dans le fond, il a reçu l'ordre de terminer un... Pas de terminer, mais de travailler son travail d'intérêt public. Parce que selon lui...
Parce que Max dit je mets entre guillemets mauvais mot
oui.
Dans la radio à ses ingénieurs. Donc, ça nous amène à poser la question. Est-ce que la F1 est en train de devenir un sport soft, mou?
Politique.
Ouais.
Oh mon Dieu, oui. Oui, mais je rentrerai pas là-dedans, ne pas
parce qu'on pourrait en parler pendant des heures.
Et par curiosité, c'est quoi le mot que Verstappen a dit? Est-ce qu'on a le droit de le dire en nom?
Moi, j'avais vu en traduction française « foutu ».
Ouais, okay. Je crois que c'était un mot qui commençait par « F » et qui se terminait par « je dirais pas la fin ».
Bien noté.
Mais il s'est excusé en disant que l'anglais, c'est pas sa langue première et tout ça. Fait que souvent, ces excuses-là, tu sais. Mais bref, aussi Sergio Perez. Hein? Sergio Perez, c'est pas fameux sa saison.
Très décevant cette année, Sergio.
Écoute, il est même pas... Il est-tu dans le top 10, je pense?
Il est dans le top 10 des drivers, mais pendant une bonne partie de la saison, là, pendant... Je dirais une période de 7 à 8 courses, Perez avait de la misère à se rendre en Q3. Il sortait souvent en Q2 en qualification, des fois en Q1 aussi. Donc, c'est une saison qui est en-delà des attentes pour Red Bull, ça c'est sûr et certain.
Ouais, exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme l'an dernier. L'an dernier, l'ère victorieuse de Max Verstappen, c'est pas ça. Écoute, ça fait 7 courses qu'il a pas gagné.
Oui, le dernier Grand Prix que Max a gagné... C'était
Espagne.
Barcelona.
Oui. Exactement. Donc, quand bien même qu'il y a des chances de remporter le titre, je pense pas que ça va être aussi facile que ça. Tu sais, c'est sûr qu'à Singapour, on était au circuit Marina Bay. C'est une course de nuit, il fait chaud.
Circuit urbain.
Fait que c'est sûr que circuit urbain, il y a moins de dépassements, on le voit. T'sais, c'est sûr que c'est pas comme Monaco, là, mais quand même. C'est pour ça que mon analyse est un peu... c'était un peu plate. Ben c'est pas plate, mais moi, j'ai trouvé ça un peu plate. J'étais un peu biaisée parce que je l'ai écouté hier à 11h, là, mais...
Ben, c'est une longue course aussi. C'est un circuit qui comporte 62 tours. Ouais. Donc...
Fait que c'est ça. Puis en plus, ben, les statistiques donnaient qu'on était censé avoir une voiture de sécurité. Ouais. On n'en a pas eu.
100% de voitures de sécurité de probabilité dans les dernières courses. Et pourtant, on a eu un drapeau rouge en Q3. Mm-hmm. Donc samedi, ça laissait présager quand même une possibilité d'avoir une voiture de sécurité pendant la course, mais on n'en a pas vu.
Ouais, mais j'ai vu le drapeau rouge, puis vraiment, c'est juste Carlos Sainz que ses pneus ne fonctionnaient pas, là.
Carlos!
Fait que, bref, le podium, Lando Norris a remporté Singapour.
Très belle course de Lando Norris, oui, qui a finalement réussi à rester premier à partir de la pole, pour la première fois cette saison, je pense. Là, ouais. Toutes les poles que Lando a réussi à avoir en Q3 se terminaient par un dépassement dans les premiers virages, que ce soit par Max Verstappen ou par son coéquipier Oscar Piastri, par Charles Leclerc aussi. Donc, ouais, c'est très encourageant pour Lando.
Ben, tu viens un peu de me spoiler. Donc, Max Verstappen est arrivé en deuxième position, puis Oscar Piastri, qui est son coéquipier, en troisième. Donc, McLaren est vraiment en force. Puis, fun fact, depuis les 5 derniers Grands Prix à Singapour, c'est des gagnants différents.
Wow!
Ouais, fait qu'on
course
avait...
très imprévisible.
Ouais, on avait Sainz en 2023 avec son Smooth Operator.
Smooth Operator.
On avait Perez en 2022, Vettel en 2019 parce qu'il y a eu la COVID, et Hamilton en 2018. Donc c'est ça. Puis en plus, la grille de départ à la base était assez remarquable. T'sais, on avait Nico Hülkenberg qui est pilote à Haas, qui était là. On avait Tsunoda, on avait Alonso, puis on avait deux Ferrari, 9 et 10. C'était assez étrange.
Faut mentionner quand même que Ferrari s'est qualifié 9 et 10e parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un tour en Q3 à cause du drapeau rouge.
Mm-hmm. Puis, ben, dans le fond, un autre fait marquable de cette course-là, ben, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs arrêts anticipés, mais ce qu'on note, c'est le tour le plus rapide qui a été fait par Ricardo. Écoute, je pense que c'est au 60e tour, Ricardo.
Au 61e tour, en
ouais,
fait.
Oui, à la fin, Ricardo décide de rentrer au puits, met des softs, des tendres, des pneus tendres, et puis fait le meilleur tour, mais pas le meilleur tour. De l'histoire de ce circuit-là.
Ouais.
Fait que, tu sais, il est allé vite, là. Puis, donc, c'est ça. Puis, dans le fond, on se demandait tout, OK, mais pourquoi qui, d'ailleurs, a gagné le driver of the day?
Oui. En fait, pour avoir écouté la course, là, au 55e tour, Ricardo était troisième pour le driver of the day, derrière Max et Lando, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, finalement, Ricardo a réussi à remporter le driver de la journée, en fait, avec une possible dernière course, malheureusement, pour Daniel Ricciardo. Et j'imagine qu'on va savoir dans les prochaines semaines. Il y a des rumeurs qui renvoient Liam Lawson à Red Bull Visa Cash App, Vincent.
Mais là, suite à cette superbe performance de Daniel Ricciardo, est-ce que ça pourrait remettre un peu en question son départ de la F1?
Superbe performance, c'est quand même à discuter, ouais, parce qu'avec le tour le plus rapide, Ricciardo a fini 18e sur 20, et les deux qui ont terminé en bas de Ricciardo sont des drivers qui n'ont pas fini la course.
Ouais.
Ah. Donc, il a quand même réalisé le meilleur tour de l'histoire de ce circuit.
Ouais.
Donc, c'est ça, tu sais, ça laisse, mais à ce qui paraît, on va avoir des réponses la semaine prochaine. Puis honnêtement, plusieurs journalistes sportifs l'ont dit, Daniel Ricciardo, ça fait 13 ans qu'il est en Formule 1, il se doit d'avoir des réponses. Mais ce que ça a permis, c'est que dans le fond, Ricciardo, en ce moment, course pour Visa Cash App RB, qui est, dans le fond, une écurie, qui est aussi... qui ont le même propriétaire que Red Bull Racing.
Helmut Marko.
Oui, exactement.
Puis, je pense que je vois où est-ce que ça s'en va.
Exactement. Et puis, avant que Ricardo fasse le meilleur tour, qui l'avait? Lando Norris. Donc, ça fait en sorte que Lando Norris a eu 25 points au lieu de 26. Puis, avec cette statistique-là, ça fait en sorte que Max pourrait finir deuxième pour tout le restant de la saison, puis gagner.
Deuxième derrière Lando.
Derrière Lando, oui, exactement.
Wow.
Fait que c'est ça.
Donc déjà une belle avance de taillé là, de la part de Verstappen.
Ouais, puis Ricardo, il a dit, en tout cas, si Max gagne, j'espère que je vais avoir un beau cadeau de Noël.
Ouais, puis écoute, moi, ça me laisse espérer peut-être voir Ricardo remplacer Sergio Perez qui fait des mauvaises performances après mauvaises performances. Parce qu'on se rappellera, Ricardo a quand même 8 victoires, 7 avec Red Bull, 1 avec McLaren. Mm.
C'est beau de rêver.
Oui, c'est beau de rêver. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jus en lui. Et reste à voir. Ouais. C'est un de mes chauffeurs préférés.
Ouais.
Et c'est beau rêver, comme tu dis, Justine.
Ouais.
On va avoir des nouvelles sous peu, j'imagine.
Mm-hmm.
Et les journalistes de la F1 qui sont toujours
oui.
assez présents là, pour nous sortir des nouvelles rapidement. Donc, le Grand Prix, le prochain Grand Prix qui va être à...
Austin,
au Texas, ouais. dans 2 semaines, si je ne me trompe pas.
Trois semaines. Mm-hmm.
Donc, on devrait avoir des nouvelles d'ici une semaine ou deux.
Ouais, j'ai vu ce matin qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici une semaine, mais bref, on l'a vu à son entrevue en fin de course, là, qu'il y avait beaucoup d'émotions.
Ouais.
Mais bref, il reste encore 6 courses au calendrier, fait qu'on va voir ce que la saison 2024 nous réserve.
Ouais.
Est-ce qu'on a des petites prédictions hâtives par rapport à la situation, Ricardo?
Comme j'ai dit, moi, je prédis un Ricardo qui va peut-être rejoindre les rangs de Red Bull ou qui va perdre son siège au profit de Liam Lawson, ancien driver de l'écurie école, si je peux appeler ça comme ça, de Red Bull.
OK.
Personnellement, je trouverais ça un peu absurde qu'il perde son siège à 6 courses restantes.
Ouais,
mais bon.
Surtout que Liam Lawson a vraiment pas donné des résultats l'année dernière. Là. Il finissait toujours en bas de Yuki Tsunoda. Puis Yuki Tsunoda, on sait qu'il a une personnalité au sang très, très, très chaud. Moi, c'est lui que je renverrai à la maison, mais c'est pas moi le principal, le team principal de Red Bull Visa Cash App. Donc, la décision n'est pas entre mes mains, malheureusement. Et c'est ce qui va terminer aujourd'hui la première émission de Hors-jeu. Merci beaucoup, Justine.
Merci à toi, Julien, de nous avoir invités.
Merci beaucoup, Vincent, d'avoir participé avec moi à ce nouveau projet. Et j'espère vous recevoir dans les prochaines semaines pour une autre chronique, si ça vous tente.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de revenir dans les studios de CFAQ et de parler de sport.
Super! Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci tout le monde et bonne semaine!